François Lecroux, 26 ans et ingénieur en recherche et développement chez Nimesis Technology.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Alors, mon parcours d'étudiant est très classique pour un étudiant, pour un ingénieur. J'ai fait une classe préparatoire en 2 ans, du coup, au lycée Faber de Metz, donc PCSI, PSI Étoile, pour les connaisseurs. Donc, c'est 2 années très intensives en maths et en physique, mais j'en garde quand même des bons souvenirs et de belles amitiés. Ensuite, sur concours, j'ai intégré l'ISAE ANSMA, donc l'École nationale de mécanique et d'aérotechnie à Poitiers. Donc, un cursus j'ai intégré en 2015. J'en suis sorti diplômé en 2019 en option matériaux avancés. Et enfin, avant de rejoindre le monde du travail, j'ai fait une année de spécialisation du coup à l'ISAE Supaéro à Toulouse, avec un master spécialisé, le TASASTRO, donc spécialisé en management et en ingénierie des systèmes spatiaux.
Alors, quel a été votre parcours professionnel, même si, comme vous l'avez parfaitement indiqué, il est assez court?
Alors du coup, bon, déjà pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages encore des gros industriels, comme Thales Alenia Space en Italie, ArcelorMittal au Luxembourg, Safran Aircraft Engines en France. Et avec toute la dynamique actuelle du New Space, après tous ces stages, j'ai eu envie plutôt de m'orienter vers un travail dans une plus petite structure, notamment pour y monter plus rapidement en responsabilité. Et c'est pour ça que à la fin de mon master spécialisé à l'ISAE Supaéro, j'ai eu la chance d'obtenir un stage dans une PME qui s'appelle Nimesis Technology, qui à l'époque était en réorientation pour passer du secteur biomédical au secteur du spatial, afin d'y appliquer des technologies de métaux et d'alliages particuliers. Donc ça correspondait bien à mes deux formations, en systèmes spatiaux et en mécanique des matériaux. C'est pour ça que j'ai voulu tenter l'aventure. À la fin de mon stage, j'ai eu l'occasion d'être prolongé du coup en tant qu'ingénieur en R&D, du coup, où aujourd'hui je m'occupe essentiellement du design thermomécanique de nos produits, mais également de temps en temps de responsabilités plus technico-commerciales.
Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a orienté sur une carrière liée au spatial et aux nouvelles technologies?
Alors, il n'y a pas tellement une rencontre dans mes études hein, qui m'a donné envie de m'orienter vers le spatial, vu que je me suis engagé dans les études à la fin du lycée, justement, avec cette idée de travailler dans le spatial. Alors, le spatial, c'est une chose qui me fascine depuis très longtemps, notamment grâce à mon père qui était fasciné par les missions Apollo. Donc, je savais déjà que je voulais travailler dedans. Après, évidemment, pendant mes études, notamment parce que j'ai eu la chance d'être dans des écoles spécialisées dans le secteur. J'ai rencontré pas mal de gens qui travaillaient pour des gros industriels, pour des agences spatiales, qui avaient travaillé sur des programmes historiques. Évidemment, tout ça, ça nourrit mon enthousiasme. Après, des personnes qui ont particulièrement compté, j'allais dire, plus dans ma formation d'ingénieur et scientifique, il y a eu tous mes responsables de stage et notamment toutes mes encadrantes, que ce soit lors d'un stage en laboratoire ou même ma manageuse lorsque j'étais chez ArcelorMittal. Là, ce sont des personnes qui m'ont énormément inspiré, c'est certain.
Pouvez-vous nous présenter l'entreprise Nimesis?
Oui, bien sûr. Alors, Nimesis Technology, c'est une PME située à Metz, en Lorraine, qui a été fondée en 2008 hein, par Alain Hautecoeur. Donc, à la base, hein, c'est une petite structure qui dérive en fait du laboratoire de l'Université de Lorraine en matériaux et qui a choisi du coup de proposer des solutions pour l'industrie à base d'alliages à mémoire de forme. Donc, les alliages à mémoire de forme, je pense que j'aurai l'occasion de dire 2 mots sur ces matériaux particuliers et très innovants. Donc, au début, l'entreprise était plutôt orientée vers le secteur biomédical, qui est le secteur historique d'application des alliages à mémoire de forme, les AMF. Donc, notamment, l'entreprise produisait et produit toujours d'ailleurs des stents, hein, qui sont des implants biomédicaux. Cependant, vers 2014, à partir de 2014, l'entreprise a été de plus en plus approchée par le Centre national d'études spatiales, le CNES, afin de fournir justement des alliages pour des applications spatiales. Et ce faisant, avec le soutien continu du CNES, mais également d'autres acteurs qui se sont greffés, l'entreprise a choisi de s'orienter vraiment dans ce secteur, d'autant qu'avec la dynamique du New Space et de l'entrepreneuriat spatial, il y a vraiment une place à se faire dans ce secteur. Les produits à base d'alliage mémoire de forme spatiale existent depuis une vingtaine d'années, mais ils sont tous fabriqués aux États-Unis. Là, c'est l'occasion de voir émerger un acteur français et européen dans le secteur. Et actuellement, du coup, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, du coup, c'était en mars 2020, nous étions 7. Aujourd'hui, nous sommes 22.
Les alliages à mémoire de forme utilisés aux États-Unis, ils sont utilisés dans quel cadre? C'est dans le spatial, dans le médical ou
Dans tous les domaines, hein. On va dire en Europe, ces alliages étaient déjà bien connus, notamment pour les applications médicales. Pour des applications spatiales, les gros industriels et les grands groupes avaient déjà étudié des dispositifs les utilisant, mais il n'y avait pas un industriel en Europe et en France encore moins capable de produire ces alliages et qui avait tout le savoir-faire scientifique sur ces alliages, car ce sont des métaux très particuliers. Alors, je peux les présenter. En fait, ce sont des matériaux métalliques qui ont la capacité de récupérer leur forme initiale après avoir subi des déformations très importantes. Et ce, par deux moyens. Alors, soit ce qu'on appelle la superélasticité. Donc ça, c'est un matériau qui se comporte comme un ressort, mais qui est capable d'encaisser des déformations bien plus importantes qu'un acier classique. Soit par un effet mémoire qui donne son nom. Alors là, pour le coup, on peut venir tordre un matériau un petit peu dans tous les sens, comme je le fais ici. Et lorsque je vais venir le chauffer, il va récupérer sa forme initiale. Et donc ça, c'est particulièrement bien adapté au spatial, vu qu'en fait, on est capable de fournir des déplacements et des forces très importantes à partir d'un changement de température. Or, dans le spatial, des changements de température, on n'a que ça en orbite, vu qu'on passe de moins 120 degrés Celsius lorsqu'on est en phase d'éclipse à l'ombre du Soleil, à plus 120 degrés Celsius lorsqu'on est face au Soleil. Donc ce sont des effets qu'on peut exploiter assez facilement.
Ouais, les températures sont beaucoup plus importantes en positif et en négatif dans le spatial que sur Terre.
Absolument.
Alors, suite à l'opportunité qu'a saisie Nimesis sur le spatial, due notamment à la miniaturisation des satellites, on peut citer comme exemple les fameux CubeSats, vous avez réalisé différents actionneurs intelligents. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que représente un actionneur intelligent dédié plus spécifiquement au domaine spatial? Je pense notamment à Trigy et Hector et l'émission auxquelles ils seront bien entendu consacrés.
Bien sûr. Alors, les actionneurs qu'on développe, en fait, sont destinés essentiellement à venir bloquer des mécanismes pendant les phases de lancement. Lors d'un lancement, il y a énormément de vibrations, il y a énormément d'efforts qui sont en jeu. Or, les panneaux solaires, comme ceux du CubeSat qu'il y a derrière moi, ce sont des parties très fines, très fragiles, donc qu'il faut venir maintenir bien bloquées sous la coiffe. Et c'est l'objectif des actionneurs Trigy. En fait, les actionneurs Trigy, ce sont des actionneurs à base d'alliage mémoire de forme. Plus que l'actionneur, c'est le matériau qui est intelligent, vu qu'il va venir réagir en fait à une élévation de la température qu'on va venir provoquer sur commande. Et cet actionneur, il va permettre de venir libérer l'assemblage, donc par exemple le panneau solaire ou l'antenne du satellite, en venant briser une vis. En fait, ce petit dispositif, donc là, c'est l'un des plus petits Trigy. Il va être capable de fournir une force suffisante pour venir briser une vis en acier et donc libérer les panneaux solaires. Donc c'est ainsi qu'on les Trigy, ça se destine vraiment à ce marché. Donc en anglais, on parle des on-down release actuators, HDRA, venir libérer des mécanismes. Alors ça va, comme vous le disiez, du plus petit CubeSat. Ça, c'est typiquement destiné à un CubeSat 3U. Mais on a toute une gamme de Trigy qui sont capables de couvrir tous les besoins jusqu'à de plus gros satellites. Celui-ci n'est même pas d'ailleurs le plus gros et qui est plutôt destiné aux satellites géostationnaires, donc à un marché plus classique. Donc voilà, avec Trigy, on a vraiment une gamme d'actionneurs qui sont capables de couvrir tous les besoins du marché spatial. Et l'autre actionneur dont vous aviez parlé, c'est une autre gamme qui s'appelle Hector. Donc ça, c'est un actionneur en rotation, qui utilise également un alliage à mémoire de forme Et là, l'objectif, ça va être de venir remplacer, par exemple, des moteurs ou des systèmes à ressort avec un système capable de fournir une rotation, mais de manière beaucoup plus douce et en utilisant beaucoup moins de puissance à la base, avec un système beaucoup moins complexe et beaucoup plus sûr. Et en fait, la gamme des accélérateurs, donc là, c'est pareil, ça passe du début. L'ouverture de panneaux solaires d'un CubeSat à l'ouverture des panneaux solaires de satellites géostationnaires. Ça dérive d'un développement que l'on fait avec le Centre national d'études spatiales pour venir déployer les rovers, les panneaux solaires du rover MMX. Donc MMX, c'est une mission entre le CNES en France, le DLR en Allemagne et la JAXA au Japon. L'objectif, c'est de déposer un petit rover sur le sol de Phobos, une des lunes de Mars, et les actionneurs Hector seront utilisés pour venir ouvrir les panneaux solaires du rover. Donc voilà, ça, ce sont les deux actionneurs principaux que l'on a. L'objectif de Nimesis à terme, c'est de proposer tout un catalogue d'actionneurs intelligents à base d'alliages à mémoire de forme. Donc on pourra en dire plus dans les mois à venir, hein. Il y aura des actionneurs capables de s'activer plus rapidement, des actionneurs capables de générer moins de chocs. L'objectif, c'est vraiment de couvrir tous les besoins du marché spatial en France, en Europe et dans le monde.
Quels sont les projets que vous développez actuellement au sein de Nimesis?
Alors, pour ma part, je suis essentiellement sur le développement et la qualification des Trigi. Nous avons défini toute la gamme de ces actionneurs. Elle est en cours de qualification, notamment avec l'aide du Centre national d'études spatiales. Donc, l'une de mes missions principales, maintenant que le développement des actionneurs est réalisé, c'est de réaliser la qualification, c'est-à-dire tous les tests d'environnement, montrer que les Trigi résistent aux variations de température, au vide spatial, aux vibrations rencontrées lors du décollage. À côté de ça, je suis également sur le développement d'autres actionneurs, que ce soit sur la définition d'Hector, mais également sur la définition de toute la gamme d'actionneurs dont j'ai parlé. Et ponctuellement, il nous arrive également de développer des produits en propre pour des clients qui ont un besoin bien spécifique et qui ne va pas forcément rentrer dans notre catalogue. Et du coup, j'interviens également sur d'autres actionneurs, des dispositifs notamment de contrôle thermique passif qui servent sur des satellites et sur des missions d'exploration.
Bien. Les alliages de forme et ou les actionneurs intelligents peuvent-ils permettre le développement de nouveaux projets spatiaux plus ambitieux que ceux développés dans les années 80? Car là, nous vivons incontestablement une révolution du point de vue du New Space et des nouvelles technologies. Et je pense notamment au projet Hermès qui faisait écho dans les années 80 concrètement à la présence d'une élite scientifique pour qui rien n'était impossible.
Alors c'est certain que pour nous non plus, rien ne nous semble impossible. Alors les alliages à mémoire de forme, leur gros avantage, c'est qu'ils sont à la fois actionneurs et capteurs, qu'ils réagissent à des stimuli de l'environnement. Donc en fait, ça permet d'avoir des dispositifs très performants, mais très simples, avec peu de pièces, donc peu de risques de panne, qui ne sont pas lourds, qui consomment très peu de puissance. Donc en fait, toutes ces économies qu'on va faire à ce niveau-là, en termes de puissance, en termes d'encombrement, en termes de masse, c'est de la charge utile qu'on va pouvoir mettre en plus. Donc c'est plutôt des actionneurs qui vont se destiner en fait à être embarqués sur des missions d'exploration robotique, comme c'est le cas de MMX, comme c'est le cas on va avoir un boom de missions d'exploration, par exemple de la Lune. Donc c'est vraiment destiné à ce type d'application, également aux applications des CubeSats. Mais clairement, c'est vraiment une technologie qui est très bien adaptée aux besoins du New Space, dont une des caractéristiques de New Space, c'est de venir mettre sur le marché des technologies qui ont plutôt été étudiées par des scientifiques, comme vous le disiez, en université. C'est le cas des alliages à mémoire de forme actuellement. C'est le cas des technologies de propulseurs électriques à effet Hall, par exemple, avec d'autres sociétés. C'est le cas de certaines technologies d'antenne. Vraiment, une des belles choses qu'il y a dans la dynamique du New Space en France, c'est vraiment de venir mettre sur le marché des technologies performantes pour le spatial, issues de la recherche publique. Et sur ce, D'ailleurs, on est très bien aidé, notamment par le Centre national d'études spatiales, pour réaliser cette mission.
Alors, vous avez écrit avec passion une histoire sur l'ambitieux projet que représentait Hermès. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet, notamment sur deux aspects, le vu sous l'angle des entreprises, des industriels, et le deuxième aspect, vu sous l'angle politique?
Oui, bien sûr. Alors, Hermès, c'était un projet qui est né à la fin des années 1970 en France et puis en Europe pour construire un véhicule spatial habité en Europe. Donc, en fait, il découle des premières études sur Ariane, où il était prévu d'augmenter la puissance d'Ariane afin de se mettre en raccord par rapport au marché des satellites géostationnaires. Et lorsqu'on est arrivé à des concepts d'Ariane suffisamment puissantes, Ariane 4 puis Ariane 5, le CNES a commencé à se poser la question des vols habités en Europe. Et il y avait à l'époque toute une idée selon laquelle l'orbite basse allait s'industrialiser avec des petites usines en orbite pour produire des matériaux précieux, pour produire des médicaments qui ne pourraient se faire qu'en zéro gravité. Donc il y a vraiment eu cette idée d'une industrialisation de l'orbite basse. Et du coup, la France a pensé qu'il serait intéressant d'avoir un véhicule capable de venir ramener tous ces produits sur Terre, mais également d'envoyer en orbite des équipages peu qualifiés, avec des opérateurs, avec des ingénieurs, mais qui n'aient pas forcément la formation d'astronautes et de pilotes de chasse. À cet égard, il y a eu deux concepts qui ont été étudiés, la capsule et l'avion spatial. L'avion spatial a été jugé plus intéressant car justement, il permet un retour sur Terre plus doux, plus en douceur que la capsule. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers l'avion spatial. Alors sur ce, il y a tous les grands industriels français qui ont été mis en concurrence et qui ont été intégrés au projet, donc notamment Aérospatiale, qui est aujourd'hui Airbus, ainsi que Dassault Aviation. Ce sont les deux industriels que la France a chargés de réaliser le projet. Ensuite, le projet a pris une tournure plus politique lorsque la France a voulu européaniser le projet en 1985 afin de faire venir tous les partenaires européens qui étaient sur Ariane pour pouvoir partager les frais. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se compliquer, car au moment où la France a demandé aux Européens de rejoindre le projet, elle avait déjà réparti tous les contrats industriels auprès d'industriels français. Ce qui fait que la plupart des Européens sont venus finalement pour financer un projet français. Bon, les choses Durant la deuxième moitié des années 1980, un partage des tâches a été réalisé avec les autres industriels européens, notamment les Allemands, qui se plaignaient de ne pas avoir un retour correspondant à l'argent qu'ils investissaient, d'autant plus que les Allemands n'avaient pas forcément envie de ce projet, ils préféraient financer des projets scientifiques. Donc le projet est devenu très tendu à ce moment-là, d'autant plus que la masse d'Hermès ne cessait d'exploser, donc Ariane ne pouvait plus suivre les performances demandées pour Hermès. Ensuite, il y a eu la réunification de l'Allemagne à la fin de l'URSS. L'Allemagne a arrêté de financer le projet, ce qui fait que c'était très délicat pour la France. Donc, au final, le projet a été arrêté en 1992 à l'occasion du Conseil de Grenade. D'une part, parce qu'il n'y avait plus le budget suffisant. L'Allemagne ne voulait plus financer le projet. La France ne voulait pas le financer seule. Et l'optique d'une industrialisation de l'orbite basse n'était plus à jour, ce qui fait que Hermès n'avait plus d'utilité réelle. Et avec la fin de l'URSS et de la guerre froide, s'ouvrait la perspective de la coopération internationale et de l'ISS. Et il n'y avait plus cette course à l'espace qui justifiait une autonomie de l'Europe dans le domaine des vols habités.
Et le budget d'Hermès était de combien? Enfin, pour réaliser ce projet, c'était un investissement de combien?
Alors, je n'ai plus les
De
chiffres
l'ordre, ouais.
exacts en tête. Je sais qu'un industriel d'Assault Aviation, vu que Dassault travaille énormément sur le projet, m'avait expliqué que Dassault aurait pu financer seul le projet s'ils avaient abandonné le Rafale. Donc ça aurait coûté à peu près aussi cher de faire Hermès que ça n'a coûté de faire le Rafale.
Alors, pour l'écriture de ce livre très intéressant, avez-vous utilisé une méthode particulière, une méthode historique, axée sur une méthode historique ou plutôt axée sur une méthode scientifique?
Alors là, pour le coup, j'étais plus dans une méthode historique, même si j'ai pas, même si j'ai pas effectivement la rigueur qu'ont les historiens pour faire ce genre de travail. Les historiens qui ont travaillé sur le projet Hermès, je peux citer Luc Van Abelen aux Pays-Bas, qui a fait un livre remarquable d'ailleurs sur le sujet, ou Anne de Fleurys en France, à la Sorbonne, qui a rédigé une thèse sur le sujet, qui ont vraiment une rigueur scientifique là-dessus. Moi, je me suis plutôt appuyé sur deux sources. Beaucoup de presse de l'époque, de la presse française, de la presse allemande, de la presse anglaise, vu que le projet était très suivi par la presse spécialisée à l'époque, donc ça permettait vraiment de bien suivre les évolutions du projet, et également sur des témoignages de personnes qui avaient travaillé sur le projet, donc essentiellement des ingénieurs, des chercheurs. En fait, j'ai commencé à recueillir des témoignages là-dessus parce qu'à l'ENSMA, un certain nombre de mes enseignants-chercheurs avaient travaillé de près ou de loin sur le projet dans les années 1980. Puis ensuite, petit à petit, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient travaillé sur le projet avec des postes plus à responsabilité, que ce soit des décideurs, des chefs de projet ou même des astronautes qui avaient participé au développement.
Alors, du fait que des ingénieurs et certains scientifiques du projet Hermès sont encore vivants, est-ce que vous les avez rencontrés, vous avez eu la chance de les rencontrer lors de l'écriture de ce livre?
Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns que je cite d'ailleurs en préface. Pour la plupart, d'ailleurs, Hermès a été leur première mission en début de carrière. Donc, c'était vraiment très intéressant de recueillir leurs témoignages. Alors, j'en retiens deux choses. C'est d'une part, bon, de leur côté, une petite amertume quand on fait que le projet ne soit pas allé jusqu'au bout, une petite frustration, même si, au final, la plupart du temps, ces personnes ont ensuite l'occasion de travailler sur des projets encore plus intéressants, que ce soit Ariane, Rosetta ou la TV. Mais d'autre part, et ça c'était plutôt rassurant, dans ce projet on voit pas mal de frictions entre les pays, notamment entre la France et l'Allemagne. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en les écoutant, je me rendais compte en fait qu'il n'y a jamais eu ces frictions des équipes d'ingénieurs. Il y a, par exemple, des ingénieurs français travaillent très bien avec des ingénieurs allemands. S'il y avait des frictions, c'était entre les décideurs politiques, entre les grands industriels, mais jamais à l'échelle des ingénieurs pour qui la coopération internationale se passait très bien.
Alors, selon vous, pour quelle raison le projet Hermès n'a pas abouti en fait?
Non, il y a deux raisons. Une purement technique et qui, pour le coup, s'entend très bien, je pense, c'est qu'à la fin de la guerre froide, les objectifs qui étaient assignés à Hermès n'étaient plus d'actualité. Il n'y avait plus d'industrialisation de l'orbite basse, ce qui fait qu'il n'y avait plus besoin d'un véhicule du type Hermès. De plus, il y avait eu le retour d'expérience sur la navette spatiale américaine. On s'était rendu compte que cette architecture était très dangereuse avec l'explosion de la navette Challenger qui avait entraîné la mort de son équipage. Ça aurait obligé Hermès à se doter de systèmes de sauvetage, mais ça aurait fait exploser la masse et donc ça aurait été très compliqué d'un point de vue technique. Ce qui fait qu'une architecture simplifiée pour le vol habité, telle qu'une capsule, aurait vraiment été bien plus intéressante pour l'Europe. D'autres raisons, et qui pour le coup est, je pense, un petit peu plus, que l'on peut un petit peu plus reprocher à la fin du projet, c'est qu'à la fin de la guerre froide, il y a eu cette idée que tout pourrait passer par la coopération internationale, c'est-à-dire la coopération de la France, l'Europe, les États-Unis et la Russie, et que finalement, l'Europe n'avait plus besoin, de travailler autant à son indépendance. Et ça, c'est aussi vrai dans le domaine du spatial que dans le domaine de la défense. Et ça, malheureusement, on voit aujourd'hui qu'on en paye le prix assez cher, vu qu'on a été dépendant pendant des années des lancements, de lancer nos astronautes sur les lanceurs américains et sur les lanceurs russes. Pendant 10 ans, les Américains ont été dépourvus de moyens d'accès à l'espace. On a été obligés de se baser uniquement sur des moyens d'accès russes. Et avec la situation actuelle, on voit bien que ce n'est pas une situation tenable.
Alors, quels ont été les bénéfices de cet échec, s'il y en a eu?
Ah oui, bien sûr. J'allais même dire que le projet Hermès n'est finalement intéressant que pour voir ce qui a été fait à partir de. Que pour voir ce que ça a changé dans l'ordre spatial. Bon, d'une part, il y a un héritage technologique non négligeable. Le lanceur Ariane 5, qui devait être le lanceur d'Hermès, a été un succès commercial et technique pendant des années. Son dernier fait d'armes, c'est quand même le lancement du JWST, ce qui n'est quand même pas rien. Un certain nombre de technologies ont été étudiées en Europe pour la première fois grâce à Hermès, que ce soit dans le domaine des batteries, que ce soit dans le domaine de l'informatique embarquée, que ce soit dans le domaine des matériaux résistants à haute température. Toutes ces technologies ont été appliquées ensuite sur différents autres programmes. Et d'un point de vue organisationnel, ça a permis de voir les limites du système européen qu'il y avait jusque-là, c'est-à-dire de multiplier le nombre d'acteurs et les étages de décision. C'est l'Agence spatiale européenne qui coordonnait le projet, mais ensuite c'était le CNES qui coordonnait à un autre niveau. Ensuite, il y avait un partage des tâches, c'était l'aérospatiale qui s'occupait de l'ensemble du projet, mais c'était Dassault qui s'occupait de la partie avion. Et après, il y avait tous les industriels européens, donc c'était une organisation très chaotique. Vers la fin du projet, en 1991, les industriels avaient fait l'effort de se réunir ensemble dans une structure commune qui s'appelait Euro Hermès Space. Donc, ça témoigne vraiment d'un bel effort des industriels de vouloir mener le projet à bien. Malheureusement, à ce moment-là, les politiques avaient déjà décidé de l'annulation. Mais par contre, ce modèle de regrouper tous les industriels européens, c'est un modèle qu'on a vu ensuite se développer par la suite. Déjà, Airbus, en réunissant tous les industriels. Donc, d'abord, c'était EADS, puis c'est devenu le groupe Airbus. Et aujourd'hui, avec Ariane Group, qui résulte en fait de la fusion des activités spatiales de Safran, qui s'occupait des moteurs d'Ariane, et d'Airbus. Qui s'occupait de la structure, et maintenant on a une structure unique, Ariane Group. Donc en quelque sorte, Ariane Group est comment dire, est le descendant d'Euro Hermès Space.
Bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général?
Alors, par les sciences en général, alors, je peux parler pour les sciences en général et en particulier, on va dire, les sciences de l'ingénierie, car ça reste malgré tout le domaine que je connais le mieux. Déjà, ne pas se mettre d'auto-censure. J'ai bien aimé que vous parliez des jeunes garçons et des jeunes filles qui s'intéressent aux sciences, parce qu'en général, il y a une auto-censure, notamment chez les jeunes filles, qui se disent ce domaine, c'est pas pour moi, par manque parfois par manque de modèles. Donc, c'est vraiment de pas se donner, de pas s'auto-censurer. Les sciences et l'ingénierie en particulier, c'est un domaine très vaste. Il y a besoin d'énormément de compétences à ce niveau-là. Donc, je vais dire, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour toutes les personnes passionnées. Un autre conseil que je donnerais d'ailleurs, c'est par la suite, dans les études, parfois certaines personnes s'auto-censurent en se disant qu'un domaine, bah, par exemple le domaine du spatial, ce n'est pas pour eux. Parce qu'ils ne sont pas passés par une école spécialisée dans le spatial. Mais le domaine du spatial, c'est très vaste. Un lanceur, il n'y a pas seulement sur les lanceurs ou les satellites, il y a énormément de sous-systèmes qui demandent énormément de compétences. Il n'y a pas besoin de sortir d'une école spécialisée dans le spatial pour travailler là-dessus. Un lanceur, ça demande des compétences en matériaux, ça demande des compétences en structure, ça demande des compétences en informatique, en hydraulique. Plein de compétences qu'on peut acquérir à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs, peut-être un petit peu moins connues, mais d'aussi bonne qualité. Donc, n'ayez pas d'autocensure par rapport au parcours que vous allez réaliser. C'est vraiment ce que vous allez en faire qui compte et pas l'école dont vous partez, même si parfois c'est un petit peu plus. Je ne vais pas dire que c'est plus dur partant de certaines écoles, mais c'est plus facile avec d'autres, c'est certain.
Alors, pour finir, en tenant compte aujourd'hui de l'impact des différentes crises, notamment celle du Covid, les associations scientifiques et techniques sont-elles importantes, essentielles au sein de notre société et pourquoi?
Alors, je pense qu'elles sont essentielles à deux niveaux. En fait, d'une part pour les personnes qui travaillent dans le domaine des sciences. Je pense qu'il est très important de s'impliquer dans des associations. Alors, dans le cas du domaine spatial, je suis par exemple impliqué dans de deux associations, la 3AF, qui est la société savante de référence pour l'aéronautique et l'astronautique en France, dont je gère les activités dans la région Grand Est, et le SGAC, qui est un regroupement de jeunes professionnels et étudiants dans le domaine spatial à l'échelle mondiale. Je pense que c'est très important d'être impliqué dans ces associations pour donner du sens, alors pour donner du sens pour soi-même. Notamment au sein du SGAC, on s'occupe beaucoup des questions de diversité, le fait de rendre le secteur du spatial plus mixte, plus inclusif à ce niveau-là. Ça, on a vraiment besoin de l'implication des personnes qui travaillent dans le
Qu'est-ce que
domaine.
vous entendez par diversité?
Notamment le fait que le secteur du spatial, ce soit un domaine où malheureusement il y a une forte sous-représentation des femmes. Et ça, c'est lié à des stéréotypes qui sont véhiculés très tôt, en fait. Hein, souvent, on essaye d'agir à ce niveau-là au moment de l'université, par exemple. Mais à ce moment-là, je veux dire, c'est déjà trop tard. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des. Récemment, on a vu qu'avec la réforme du bac, il y a moins de jeunes filles qui s'orientent vers les filières scientifiques. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on essaye d'agir pour créer des vocations. Car c'est possible. Par exemple, la Némésis, on a la parité. Donc, c'est totalement possible
De toute
d'être
façon,
inclusif.
vous, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas là. Enfin, s'il y a une personne qui est compétente, vous la prenez, qu'elle soit
Oui, absolument. Ça, en
homme ou
plus,
femme.
là, ici, c'est pas, on ne se force pas du tout, on ne se force pas à avoir de la parité.
Oui.
Mais je veux dire, quand on voit les compétences des gens, en fait, la parité va quasiment d'elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui est à forcer, mais faire en sorte qu'il y ait autant de jeunes filles que de jeunes garçons qui rêvent de spatial. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment un des objectifs au sein du SGAC qui permettent de donner sens. Mais aussi, vis-à-vis du grand public, le rôle des sociétés savantes, c'est peut-être de venir parfois retranscrire un petit peu, en vulgarisant en fait nos activités. Le domaine du spatial, c'est un domaine qui peut paraître un petit peu obscur vis-à-vis du grand public, surtout avec les nouvelles activités. Parce qu'en fait, avec le New Space, les gens n'entendent parler du spatial que par deux choses. Soit par les constellations et la pollution spatiale, le fait qu'on envoie de plus en plus de satellites en orbite. Donc ça peut inquiéter à ce niveau-là. Et ça peut paraître contradictoire avec les objectifs de protection de l'environnement. Et d'autre part, c'est le tourisme spatial où on a l'impression que finalement, le spatial, c'est une activité de milliardaire. Finalement, c'est un plaisir de milliardaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les sociétés des activités spatiales, notamment en France et en Europe, ce sont des activités à but scientifique, notamment pour observer le réchauffement climatique et nous donner des clés pour mieux le gérer. Mais également des applications directement à destination des citoyens, que ce soit l'observation de la Terre, que ce soit la météo, que ce soit la gestion des crises naturelles ou ce genre d'applications. Donc à ce niveau-là, les sociétés savantes sont vraiment très utiles pour venir expliquer ce que l'on fait dans ce domaine, montrer que ce n'est pas du tout quelque chose d'obscur, on ne crame pas de l'argent pour rien, si je peux parler un peu vulgairement, ça a vraiment une utilité. C'est particulièrement le cas en Europe, d'ailleurs, on a vraiment cette chance. Et faire comprendre également un niveau un petit peu plus de prestige, faire bien comprendre aux gens qu'en Europe et en France, on a un secteur spatial qui marche très bien, on peut en être fier. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de domaines dans lesquels la coopération en Europe, ça se passe très bien. Le spatial, c'en est un et ça peut vraiment servir d'exemple.